9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
La chronique Le Bistrot du Livre, en partenariat avec Cépage d'Encre et en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté pour un événement considérable. Et tout ça à cause d'un livre d'un auteur découvert il y a peu, dont on reparlera au comptoir des livres en fin d'émission. Donc un pas de côté, ou comment la littérature peut traiter l'histoire, la grande, avec un grand H. On va donc mobiliser des auteurs d'hier et d'aujourd'hui, des romanciers ou des poètes célèbres, mais aussi des inconnus avec leurs mots simples, les mots de tous les jours, qui nous aident à mieux comprendre la folie des hommes, les dérèglements de l'histoire qui nous font pénétrer au cœur de ce qui a bouleversé le début du XXe siècle et donné au monde un nouveau visage. Ou une gueule cassée. Oubliez le romantisme du 19e siècle, oubliez l'insouciance des années 1900, nous voilà à l'aube de temps déraisonnables, comme l'écrivait Aragon, chanté par Léo Ferré, et repris ici par une voix rare, celle de Philippe Léotard.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur. Je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle où l'on drôle. Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier d'Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages. Il y voilait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître Dieu, Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit montent les civils. Remets du rimet la Tessie Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus.
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et au bout de la nuit, près de 18 millions de morts, 10 millions de militaires et presque autant de civils, sans parler des 6 millions de blessés et autant d'orphelins. Alors aujourd'hui, un voyage, mais un voyage au bout de la nuit.
Son nom, la Der des Der, ce qu'on croyait. 14-18, autrement dit, la Grande Guerre.
Ce voyage au bout de la nuit, comme le titre du chef-d'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, Céline autant décrié pour son antisémitisme qu'adulé pour son style, Céline qui a donné un grand coup de pied dans l'encrier de la littérature et qui, avec cette traversée de la guerre, nous compte aussi tout le désespoir d'une jeunesse sacrifiée. Pourtant, au départ, tout commence comme une bonne blague entre deux potes. Tout commence par une conversation entre Arthur Ganat et l'auteur, appelé Bardamu, l'auteur dans un bistrot à Paris, au moment où passe un défilé militaire pour enrôler des volontaires.
Ça a commencé comme ça. Moi, jamais rien dit. Oh, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. Bardamu, qui me fait, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi, bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. C'est vrai, t'as raison que j'ai convenu, justement, la guerre approchée. Mais voilà, Tipa, que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant, sur son cheval, même qu'il avait l'air bien gentil et gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme.
Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur. Et me voici parti à m'engager et au pas de course encore. T'es rien qu'un con, Ferdinand, qu'il me crie, lui Arthur, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé, mais ça m'a pas arrêté. Alors on a marché longtemps. Il y avait des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs. Il y en avait des patriotes.
Et puis il s'est mis à y en avoir moins de patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins d'encouragement. Et puis plus du tout d'encouragement. La musique s'est arrêtée. En résumé que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé les portes en douce derrière nous les civils. On était faits comme des rats.
Et voilà Céline embarquée vers la nuit, vers la grande boucherie. Et pourtant, sous le soleil d'août, ils étaient des milliers comme lui, à partir le sourire aux lèvres et la fleur au fusil dans leurs beaux uniformes tout neufs. En route, vers la grande illusion, comme dirait Jean Renoir. Et comme l'a bien écrit Joseph Delteille dans son recueil « Les Poilus ».
Le 1er août, la France devient une gare. Chaque colline abritait un chemin de fer, chaque village une station. De Brest à Nice et de Dunkerque à Bordeaux, ce n'était qu'un immense train. Tout le monde prit le train. Les territoriaux le long des voies, les conscrits dans les convois. Les cerveaux de l'état-major étaient penchés sur des wagons, sur des tunnels. L'esprit des mers voyageait sur les rails. Sous le soleil, sous la brume, la France mobilisait ses enfants. Chaque coin expédiait ses plus beaux gosses. Car la mort, cette femelle, aime les beaux gosses. Chaque terre sa plus fine fleur, car le squelette aime les fleurs. Les villages donnaient leurs coqs de village et les fermes leurs grands clergats.
Toute la France se dépouillait de son sang qu'elle expédiait par wagon réservoir du côté des ensanglantements. On faisait le tri et le dessus du panier était pour la mort. La mort se réservait la plus belle portion de la vie. Ces grands gosses rouges de santé, tout éblouis d'un air large et de longs voyages, riant à pleine gueule dans leurs gros costumes des dimanches. Ces beaux garçons couverts de baisers de filles et de peaux d'ange, chauds de compagnonnage et de vin, lâchés avec leurs insoucis et leurs musettes de jambon vers l'aventure au fond des espaces. Quelle épatante vision de la vie!
Les fils du labour et de l'échoppe, les fils du peuple, libres d'outils et de gagne-pain, riaient dans une atmosphère de liberté sous la garde d'un caporal. Plus de soucis, de pluie et de foin, plus de patron et plus de travail. Mais autour d'eux, une grande vie vide toute neuve, un rang de gamins de Paris, sale de race et de crasse, un univers de belles locomotives, de façades et de sifflets, ce luxe vulgaire et cette odeur de ville qui encanaille le cœur de l'homme, de belles femmes de toutes parts. Le monde avait cassé sa coque et l'amende de la vie était à nu.
Oui, mais très vite, la guerre va montrer son vrai visage. Une pluie d'obus et de mitraille, l'automne sera sanglant, la pluie rendra les âmes sombres et l'euphorie de l'été sera vite oubliée. La guerre à l'ouvrage. Les généraux dans leur bureau, le doigt pointé sur les cartes d'état-major, sans se soucier de la réalité du terrain, de la peur, des blessures et de la mort. Pour mieux comprendre ce quotidien, plongeons-nous dans les lettres de Poilu, un recueil édité par Radio France et qui recense les courriers de tous ces pioupiou, englués sur le front, et qui se demandent bien ce qu'ils font là. Surtout qu'à la mort infligée par l'ennemi, s'ajoute la mort venue de votre propre camp. Les exécutions de soldats qui ne supportaient plus, d'hommes qui ont préféré déserter et que la gendarmerie avait toffé de rattraper. Lettre, par exemple, de Marcel Garrigue, 30 ans, électricien dans le Lot-et-Garonne, depuis 17 mois sur le front.
Samedi 31 juillet 1915. Chère femme, je voulais t'écrire hier, mais j'étais tellement fatiguée et j'avais la tête sans dessus-dessous que je n'ai pas eu le courage de le faire. Nous étions à Bully avant-hier soir. On nous a dit que le lendemain, le réveil était à 2h, que nous allions passer la revue de notre vénérable général Joffre. Si je m'étais attendue à ça, je me serais fait porter malade. J'aurais eu 8 jours de prison, mais au moins, je n'aurais pas assisté à un assassinat. Vers les 3h, on nous a conduits dans un parc. Là, on nous a fait former un rectangle, et en voyant le poteau, nous avons compris, mais trop tard. C'était pour fusiller un malheureux qui, dans un moment de folie, a quitté la tranchée et refusé de revenir. Les chefs devaient lire le rapport le condamnant à mort et pendant ce temps, les 12 soldats qui étaient chargés de ce triste travail se sont mis à 6 pas. Ensuite, nous avons défilé devant le cadavre. Le crime était accompli. Et à vous, pauvres, on vous dit que le moral est excellent. Mais on ne vous dit pas que chaque jour ou presque, dans chaque division, il y a plus de 20 qui passent devant le conseil de guerre. Ton mari, Marcel.
Et la guerre se poursuit, des journées interminables dans le froid et la boue, des jours où les pluies d'obus succèdent aux rafales de mitrailleuses. On perd 30 hommes pour gagner 10 mètres sur le terrain. Les ordres qui partent dans tous les sens, la peur et la faim qui rongent les ventres, les copains que l'on voit tomber et les chefs qui montrent leur impuissance. On est loin de la gaieté des premiers jours où l'on pensait régler tout ça en 2 temps 3 mouvements. Alors s'il fallait résumer cette blessure béante, il suffit de se plonger dans l'œuvre de Blaise Cendrars, le journaliste, le poète, qui a fait toute la guerre et d'ailleurs y a laissé un bras. Dans son recueil, La main coupée, il résume en quelques lignes ce qui ne fut qu'un immense gâchis, une énorme boucherie.
Je m'empresse de dire que la guerre, ça n'est pas beau. Et que surtout, ce qu'on en voit quand on y est mêlé comme exécutant. Un homme perdu dans le rang, un matricule parmi des millions d'autres, est trop bête et ne semble obéir à aucun plan d'ensemble, mais au hasard. À la formule « marche ou crève », on peut ajouter cet autre axiome « va comme je te pousse ». Et c'est bien ça. On va, on pousse, on tombe, on crève, on se relève, on marche et l'on recommence. De tous les tableaux de bataille auxquels j'ai assisté, je n'ai rapporté qu'une image de pagaille. Je me demande où les types vont chercher ça, quand ils racontent qu'ils ont vécu des heures historiques ou sublimes. Où est l'art militaire là-dedans? Peut-être qu'à un échelon supérieur, à l'échelon suprême, quand tout se résume à des courbes et à des chiffres, à des directives générales, à la rédaction d'ordres méticuleusement ambigus dans leur précision, pouvant servir de canevas au délire de l'interprétation, peut-être qu'on a alors l'impression de se livrer à un art. Mais j'en doute, la fortune des armes est jeu du hasard.
Et pour refermer ce grand livre de la guerre, parole à ce poète qui laissa la vie. Il mourut au dernier temps du conflit, en 1918. Je parle bien sûr de Guillaume Apollinaire. Ce poème, écrit lors d'une permission à Nîmes en 1915, porte en lui le lourd manteau d'un bien funeste présage. Déjà, le titre dit tout.
Si je mourais là-bas, si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis, mon souvenir s'éteindrait, comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus. semblable aux mimosas en fleurs. Et puis, ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier.
Alors c'est vrai que les poètes, les écrivains ont su traquer au plus près cette bête immonde qui regarde s'entre-dévorer des hommes qui n'ont eu qu'un seul tort, vivre de part et d'autre d'une frontière. C'était en 14 et c'était en 18, on s'était dit à l'époque « plus jamais ça », on l'a redit en 40 et on le dit encore aujourd'hui. Aragon se demandait, on l'entendait au début de l'émission, est-ce ainsi que les hommes vivent ? On se le demande encore. Sur le comptoir des livres, eh bien, on va pas quitter la guerre de 14 d'ailleurs.
Alors sur le comptoir ce matin, c'est un écrit qui lie les deux guerres, la Der Der et la suivante, sous la forme de deux monologues croisés. Celui d'un homme, Maxime, 31 ans, à l'heure de l'armistice du 11 novembre à 11h11, un homme blessé de brèche un peu partout. Celui d'une femme, Mathilde, 23 ans, à l'heure où, sur une chaise au pied de la mairie, devant la foule des jours de fête et de haine, elle est tondue. Deux monologues qui s'entrecroisent pour dire les présents minuscules, les horreurs de la guerre. Ah, c'est un texte inédit, mais déjà publié en spectacle, dans une création musicale, une performance graphique et une lecture à deux voix. Un texte écrit par un dont la voix n'est pas inconnue aux auditeurs du Bistrot du Livre. Le livre s'appelle « De guerre lasse » et l'auteur Henri Migaud.
Eh oui, nul n'est parfait. Et de mon côté, cet auteur qui m'a donné l'envie de vous parler de la guerre, Pierre Lemaître, découvert à travers des polars, dont Alex, un thriller glaçant et une écriture au scalpel. Mais le livre qui m'a marqué sur 14-18, c'est « Au revoir là-haut », prix Goncourt 2013, découvert récemment grâce à une amie. Un seul mot, terrible. Terrible comme le fut la guerre, mais là le mot s'applique aussi aux humains. Terrible comme ce capitaine ambitieux qui n'hésite pas à tirer dans le dos de deux de ses soldats en faisant croire que les balles venaient de l'ennemi, juste pour attiser davantage encore la folie de ses troupes et gagner une colline supplémentaire à la veille de l'armistice et pour lui, quelques galons. Un salaud de la pire espèce que l'on retrouve ensuite au cœur de toutes les magouilles de l'après-guerre pour bâtir une fortune sur le dos des morts pour la France. Terrible, le sort de cette gueule cassée, la moitié du visage arrachée par un éclat d'obus. Terrible, en un mot, la nature humaine qui se déchaîne davantage encore après la guerre. Et la paix n'apparaît alors que comme un mot de pacotille. Comment voulez-vous vivre en paix après 4 ans passés en enfer ? C'est écrit avec la froide précision d'un médecin légiste et une belle dose d'humour. Au revoir là-haut, Pierre Lemaître, chez Albin Michel, un vrai, vrai roman, et plus que ça encore. Voilà, et puis toute dernière chose, un petit dernier rendez-vous, c'est samedi matin, à Oupia, au lever du soleil, ou presque, à 7h, une lecture perchée proposée par...
Cépage d'encre.
Avec, voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Exactement.
Avec deux textes entremêlés, des textes de Max Rouquette, Vers Paradis, et de Jean Giono à partir de sa nouvelle L'homme qui plantait des arbres. Voilà, nous ferons une lecture dans les arbres et les spectateurs, les auditeurs sont eux aussi invités à monter dans les arbres.
Donc c'est
pour voir le lever du soleil.
Proposé par Cépage d'encre dans le cadre de Total Festum.
On y sera. Merci Françoise, merci Henri.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.